Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous célébrons cette année le centenaire de la loi de 1905, la fameuse loi dite de séparation de l'Église et de l'État. Comme certains de nos auditeurs le savent, l'Académie des sciences morales et politiques a été choisie par le gouvernement pour organiser très officiellement cet événement. À cet effet, une série de colloques auront lieu, ceci dès le 14 février prochain, un colloque historique, un colloque plus institutionnel et enfin un colloque sociologique. Le colloque historique aura lieu les 21, 22 et 23 février prochain. Dans le cadre de cette commémoration, Un jour dans l'histoire, de son côté, vous propose une série d'émissions sur le sujet. Nous recevrons ainsi bientôt Monsieur Houdin, biographe d'Aristide Briand, qui nous éclairera sur le rôle de ce personnage politique dans l'élaboration de la loi et sa modification en 1923. Aujourd'hui, Un jour dans l'histoire vous propose de découvrir la politique menée par les républicains contre les congrégations, ceci entre les années 1880 et 1905. Pour évoquer cette question, je reçois Christian Sorel, professeur à l'Université de Savoie et spécialiste du catholicisme français. Christian Sorel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien, vous allez intervenir d'ailleurs très prochainement, le 23 février, au colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques sur le thème des congrégations. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage intitulé « La République contre les congrégations, histoire d'une passion française 1899-1904 », un livre paru aux éditions du Cerf. Vous avez également publié une biographie d'un personnage savoyard, Monseigneur Lacroix, en tous les cas, qui a passé une partie de sa vie en Savoie, puisqu'il s'agissait de l'évêque de Tarentaise, qui a vécu au début du XXe siècle, un livre, Monseigneur Lacroix, qui est également paru aux éditions du Cerf. Alors, nous retrouvons la Savoie. La Savoie, pour vous, est importante, Monsieur Sorel ?
Oui, c'est ma terre natale, c'est aussi mon objet d'étude au départ, et je continue à être fidèle à ce champ d'études et à cette terre que j'aime beaucoup.
Est-ce que la Savoie est emblématique de cette passion française que vous décrivez dans votre livre ?
Par beaucoup d'aspects, oui. Dans la mesure où la Savoie, en devenant française en 1860, a épousé les passions de la France, les déchirements, et la lutte entre les cléricaux, comme on disait, les anticléricaux, n'a pas épargné les terres savoyardes.
Alors, commençons par une définition, si je puis dire, pédagogique des termes. Qu'entend-on par une congrégation religieuse à la fin du XIXe siècle ?
Alors, on peut comprendre le mot de deux manières. Dans la perception qu'en ont les républicains et, disons, le grand public de l'époque, l'opinion, c'est-à-dire toute forme de vie religieuse, de vie consacrée.
Séculier et régulier.
Uniquement les réguliers.
Uniquement les réguliers.
Mais la congrégation en droit canon est une forme de vie consacrée plus modeste, pourrait-on dire, dont les exigences sont moindres, qui s'identifie à une vie active en particulier et s'oppose par certains aspects aux ordres qui sont souvent reclus dans les murs des monastères.
Mais ce sont des ordres tout de même ouverts sur le monde, des ordres enseignants.
Alors voilà, le gros problème finalement de ces congrégations, vu du point de vue des républicains, c'est précisément qu'elles tiennent un certain nombre de secteurs décisifs de la vie sociale, et d'abord l'enseignement, mais aussi l'assistance.
Alors ce qui m'a frappé dans la lecture de votre livre, c'est que dès les premières pages, vous mentionnez le nombre de religieux en France. Je vous cite, en 1789, il y avait 80 000 religieux. En 1808, donc sous l'Empire, il y en avait 13 000. Et en 1878, plus de 160 000. Il y a un essor religieux extraordinaire au XIXe siècle.
Oui, on a souvent une image très fausse de ce stupide 19e siècle, comme disait Daudet, dans la mesure où on a vu ce 19e siècle comme un temps de crise, de déchristianisation, qu'on a trop réduit ce siècle à cette lutte, précisément, politique. Or, le 19e siècle, c'est d'abord le siècle d'un magnifique essor religieux qui est une réponse à la Révolution. Et les chiffres que vous venez de citer sont très significatifs. La Révolution a voulu mettre fin à toute forme de vie religieuse, elle n'y est pas totalement parvenue, Et la renaissance de la vie religieuse s'est produite dès la période révolutionnaire, en exil ou en France, dans une clandestinité plus ou moins complète. Et à partir du Premier Empire, on a eu une véritable explosion du monde religieux, et précisément sous cette forme de congrégation, de vie active, et d'abord de femmes, incontestablement.
Le Concordat joue un rôle dans cet essor ?
Non, le Concordat ne joue aucun rôle juridiquement dans la mesure où il ignore les congrégations, il n'en dit aucun mot. Et c'est bien l'un des problèmes, sans doute, du point de vue de l'État au XIXe siècle. Il joue un rôle indirect dans la mesure où il ouvre la voie à la pacification religieuse.
Comment se traduit cet essor ? Il y a, on suppose, des différences entre les régions dans ce développement ?
Alors, incontestablement, il y a une géographie des congrégations qui calque en partie la géographie du dynamisme religieux de la France. Donc on va retrouver bien sûr les pôles de chrétienté de l'Ouest, des Alpes, mais il y a aussi des phénomènes d'appel des régions qui s'urbanisent et qui puisent dans les châteaux d'eau congréganistes que sont les terres de chrétienté, les montagnes en particulier. Mmh. Et Paris en est un exemple.
Et donc vous parliez de l'essor religieux, notamment chez les femmes. Il y a un domaine particulier où elles s'illustrent ? Est-ce que c'est plus l'enseignement que les ordres hospitaliers ?
Ce sont les deux. Les femmes se sont investies, puisque le chiffre que vous citiez tout à l'heure de 160 000 religieuses, il faut le répartir entre 30 000 hommes et 130 000 femmes.
D'accord,
donc
oui,
on voit bien le déséquilibre, un phénomène de féminisation qui est sans doute assez général dans le catholicisme du XIXe siècle. Mais les femmes sont présentes quasi exclusivement dans le domaine de l'assistance. Il n'y a pratiquement plus d'ordre masculin qui se consacre à l'assistance, sauf exception, et elles sont présentes de plus en plus entre 1840 et 1880 dans l'enseignement.
Donc, je reviens sur le Concordat. Le 19e siècle religieux, en tous les cas concernant les congrégations, est indépendant de cette question concordataire.
Oui, on peut dire, en tout cas, le texte du Concordat ne dit pas un mot sur les congrégations, et le 19e siècle, Napoléon, pour revenir à l'auteur de ce Concordat, n'appréciait absolument pas les religieux, sauf dans leur utilité sociale. C'est pour cela que progressivement, il autorise les congrégations féminines. Il est beaucoup plus méfiant à l'égard des hommes. Les hommes sont plus dangereux que les femmes.
Quelle est la place, ou en tous les cas le rôle de l'opinion publique sur ces ordres religieux ? Quelle est la perception de l'opinion publique de ces ordres religieux ? Elle a une opinion positive, ou bien au contraire, elle reste méfiante alors que les Lumières sont passées par là avec la Révolution ?
Alors, il faudrait parler des opinions publiques au pluriel, incontestablement. Oui. Globalement, on peut dire quand même qu'il y a une assez forte sympathie dans la société française à l'égard des congrégations et que la société partage un certain consensus, au moins jusqu'aux années 1880, pour déléguer aux congrégations toute une série de fonctions qui ne sont pas assurées d'une autre manière dans la société. Il faut quand même préciser aussi que même à l'intérieur de l'Église catholique, il y a des réticences, des méfiances, notamment de la part des évêques, lorsque ces congrégations se rattachent directement à Rome, ne sont plus des simples congrégations de droit diocésain et prennent une certaine indépendance.
Oui.
Voilà. Bon, on retrouve là des permanences. L'hostilité aux congrégations, elle ne naît pas au XIXe siècle. On la retrouve effectivement au long des siècles, même si elle retrouve une actualité nouvelle, sans doute à partir du Second Empire, où l'on voit l'affrontement entre l'Église et l'État, surtout à partir de 1860-65 avec la crise romaine, et où la montée en puissance des républicains les conduit à redécouvrir la tradition révolutionnaire et son anticléricalisme, mais aussi à s'opposer fortement à un Second Empire qui, dans un premier temps, s'est appuyé sur l'Église.
Est-ce que les congrégations représentent réellement un pouvoir en 1880 ?
Je crois qu'on peut répondre oui. Il s'agit d'un pouvoir à l'intérieur de l'Église, sans aucun doute, d'un pouvoir dans la société et dans le domaine scolaire, incontestablement.
Alors, poussons le raisonnement. Peut-on parler d'État dans l'État, comme Philippe le Bel parlait des Templiers, de la même façon ?
C'est excessif, ne serait-ce que parce que ce monde congréganiste est divers aussi. Mais il y a incontestablement plus en 1880 de congréganistes, de membres des congrégations, que de clercs séculiers. C'est à peu près un rapport d'un pour trois, si l'on englobe bon, dans le clergé, ce qui est abusif d'un point de vue canonique, les congrégations féminines.
Alors, on a l'habitude, dans, un jour dans l'histoire, de faire un peu d'uchronie. Que se serait-il passé si ? Alors, que se serait-il passé, justement, s'il n'y avait pas eu cette politique anticléricale ? Est-ce que l'essor religieux aurait suivi son cours ?
C'est toujours difficile de répondre à ce type de question, mais on peut dire quand même que dans la décennie 1870, avant l'offensive contre les congrégations, on peut constater un certain essoufflement du phénomène de recrutement, de création de nouvelles congrégations. On pourrait dire quand même qu'entre 1860 et 1880, un stade de développement maximal avait été atteint. Que se serait-il passé ? On ne sait pas. Mais sans doute, on avait amorcé déjà un phénomène au moins de stabilisation, sinon de relatif déclin, en tout cas de freinage très net de la croissance. L'âge d'or de la croissance, c'est incontestablement 1850. 40, 1860.
Donc il y aurait eu tout de même une baisse des vocations du fait peut-être des évolutions sociologiques.
Alors on la constate dès les années 1860, notamment dans les diocèses moins fervents. Donc une redistribution en cours des phénomènes de vocation est très nette dans les années 1860-1880, où l'on voit une forme de rétractation du phénomène sur les bastions de chrétienté. La Bretagne, le Rouergue.
Alors, l'activité religieuse, ma foi, peut être double. C'est soit la sanctification personnelle, soit l'évangélisation. Quelle est la mesure de cette évangélisation ? Est-ce que la politique des congrégations est vraiment apostolique ou, au contraire, ma foi, elle reste, chaque congrégation reste dans son coin et cultive son jardin dans un cadre très, très, très géographique, très limité.
Non, je crois qu'on peut dire incontestablement que les congrégations ont été le fer de lance de la reconquête catholique du XIXe siècle et qu'il y a des enjeux apostoliques tout à fait essentiels, même si en même temps elles assument des fonctions sociales dans une dimension qui n'est pas strictement religieuse. Mais quelles que soient les congrégations, vous le rappeliez, l'objectif est d'abord un objectif personnel de sanctification des membres et en même temps de faire vivre une société chrétienne. Or, l'objectif du XIXe siècle a bien été, c'est un rêve pour une partie, un rêve parfois réalisé ici ou là, celui de reconstruire une chrétienté. Et cette chrétienté, elle a besoin de troupes, si j'ose dire, et les congrégations en sont bien l'avant-garde.
Alors justement, dans cette reconquête de la chrétienté, il y a le rôle missionnaire des congrégations. Et il est très important aussi au XIXe siècle. Donc la mission, par définition, en dehors des frontières françaises.
Tout à fait. Mais aussi la mission intérieure, d'ailleurs. Mais la mission extérieure a été portée très largement par les Français et par les congrégations. La majorité des missionnaires appartiennent à des ordres ou des congrégations. On estime qu'en 1880 ou 1900, 2 missionnaires sur 3 dans le monde sont français. Et la France a répondu la première dès 1830-1840 aux appels du Saint-Siège à relancer la mission qui s'était quelque peu épuisée au XVIIIe siècle. Et on voit bien d'ailleurs le lien là entre la Révolution et la reconquête intérieure et la reconquête extérieure. Aller vers l'extérieur et aller vers l'intérieur, c'est un même mouvement de redécouverte de la foi.
Je reçois Christian Sorel, auteur du livre « La République contre les congrégations, histoire d'une passion française ». Monsieur Sorel qui interviendra très prochainement au colloque historique sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie. Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Christian Sorel, auteur du livre La République contre les congrégations, histoire d'une passion française, paru aux éditions du Cerf. Alors nous évoquons le sort des congrégations au XIXe siècle. Nous avons campé en quelque sorte le rôle des congrégations tout au long de ce siècle. Et votre livre, lui, s'applique aux limites chronologiques 1880 et 1914 et au-delà. Puisqu'il faut en fait remonter à 1880 pour voir les premiers signes d'une lutte anticongréganiste. Alors pourquoi cette date de 1880 ?
Alors je dirais d'abord qu'il y a eu des offensives plus discrètes contre les congrégations sous tous les régimes. La Restauration, qu'on pourrait qualifier de cléricale, y compris sous Charles X, a pris des mesures contre certaines congrégations. Donc ce qui montre bien que l'État a une méfiance permanente à l'égard d'institutions puissantes qui, justement, sont hors du champ concordataire, donc non contrôlables, d'une certaine manière.
C'est à rapprocher d'une tradition gallicane ou non ?
Oui, incontestablement. Là, on retrouve une tradition gallicane qui avait joué au XVIIe, au XVIIIe siècle, notamment contre les jésuites. Mmh. Et le mythe jésuite traverse tout le XIXe siècle. Et incontestablement, les régimes qui se sont attaqués aux congrégations ont tous pris d'abord comme cible les jésuites, y compris, je le répète, la Restauration. Mais en 1880, c'est depuis quelques années, 1876-1877, la victoire définitive des républicains, la République aux républicains. Or, comme on l'expliquait tout à l'heure, les républicains veulent contrôler l'Église. Pour le moment, ils ne veulent pas renoncer au concordat, dans lequel ils voient précisément un instrument de contrôle, du risque, si j'ose dire, que représente le catholicisme. Et s'ils prennent pour cible les congrégations, c'est précisément parce qu'elles sont nombreuses, actives, qu'elles contrôlent d'abord l'éducation, et on sait l'importance de l'enjeu éducatif après 1870, d'abord parce que la défaite a révélé aux yeux des républicains une sorte de carence dans la formation civique des Français. On disait, c'est l'instituteur prussien qui a gagné la guerre. Donc, il faut que la nation et les citoyens se construisent dès l'école, d'où l'enjeu essentiel de l'école. En même temps, il faut remonter à 1848 pour comprendre aussi l'importance que va avoir l'école dans la perspective de la préparation de celui qui vote, du citoyen, au temps du suffrage universel. Ces deux réalités font que l'enjeu scolaire est décisif. Mmh. Et on comprend que dès 1880, la présidence de la République a été conquise en 1879, dès 1880, Jules Ferry décide en mars de prendre deux décrets contre les congrégations, un spécifiquement contre les jésuites et l'autre plus généralement contre l'ensemble des congrégations en leur demandant de déposer une demande d'autorisation dans un délai de 3 mois.
Alors, on va revenir sur ces deux décrets. Je veux simplement ouvrir une parenthèse. Ce qui m'a étonné à vous lire, c'est que ce mouvement n'est pas franco-français. Il existe également en Allemagne. On connaît le Kulturkampf, mais il existe aussi en Suisse, il existe aussi en Belgique. Est-ce que ce mouvement, en fait, est une réponse au syllabus, est une réponse à l'infaillibilité pontificale proclamée par le Concile Vatican I ?
Oui. Dans les années 1860-1870, on voit bien un raidissement des positions de l'Église catholique face à la modernité, et le syllabus en est l'expression la plus révélatrice. Et entre les États libéraux et l'Église, l'affrontement ou les tensions tout au moins sont importantes. Et c'est vrai qu'un petit peu dans toute l'Europe, dans ces années 1870, des mesures sont prises contre les congrégations. Alors c'est vrai dans l'Europe protestante, en Allemagne, en Suisse, mais c'est vrai aussi dans l'Europe catholique, comme la Belgique que vous citiez, où il y a des mesures moins marqué sans doute qu'en France, mais il y a quand même des mesures qui sont prises contre les congrégations.
Alors je reviens en France, vous dites qu'il y a une extrémisation des camps au moment de la Commune.
Oui, la Commune a incontestablement marqué un temps d'inquiétude pour les catholiques, des prêtres l'archevêque de Paris, sont pris comme otages, et un certain nombre de religieux sont exécutés pendant la Commune. Et on voit à ce moment-là un certain raidissement des congrégations ou la création de congrégations plus militantes, le cas le plus significatif étant celui des assomptionnistes. Peu nombreux, mais qui vont symboliser aux yeux des républicains ce véritable danger que représentent les congrégations.
Alors je me permets de citer Gambetta, que vous citez. Il dénonce l'esprit vaticanesque, monastique, congréganiste et syllabique, en référence bien évidemment au syllabus, servi, dit-il, par une milice multicolore, sans patrie. Le patriotisme, à l'époque, était bien à gauche.
Il était vécu effectivement par les républicains sur cette position de l'échiquier. On reproche, ça c'est classique hein, dans le discours anticlérical, aux congrégations, aux catholiques en général, d'être aux ordres de Rome. Rome c'est un autre état, même si le pape perd ses états en 1870 définitivement, ou ce qui lui en restait, et on considère effectivement que les catholiques sont des apatrides d'une certaine manière. En tout cas, c'est un argument polémique.
Alors, venons-en donc à ces fameux décrets. Quelle est la réaction de la population lors de la publication de ces deux décrets, donc par Jules Ferry, si vous pouviez rappeler le sens de ces deux décrets ?
Alors, il s'agit d'interdire la Compagnie de Jésus, et il s'agit d'imposer aux autres congrégations une demande d'autorisation. On voit bien là l'aspect légaliste des républicains qui veulent faire entrer dans un cadre de contrôle ces institutions qui leur apparaissent incontrôlables, précisément. Alors, la population, y compris une partie des républicains modérés, réagit avec pas mal de réserves. La sympathie l'emporte plutôt à l'égard des congrégations. Et les congrégations établissent un front commun pour dire non, pour refuser de déposer une demande d'autorisation. Ce qui sera très différent 20 ans plus tard. D'autre part, Rome veut à ce moment-là... On a un nouveau pape depuis 2 ans, 1878, c'est l'avènement de Léon XIII, et Léon XIII voudrait instaurer une forme de conciliation. Ça n'est pas encore le ralliement, mais c'est déjà un petit peu dans cet esprit. Et Léon XIII tente de négocier avec le pouvoir un compromis. Les jusqu'au boutistes de la droite monarchiste font échouer le compromis, ce qui explique qu'à l'automne 1880, Jules Ferry va exécuter les décrets. Donc, dès juin, les jésuites sont expulsés et à l'automne, ce sont une partie, mais une partie seulement. Il y a un jeu de hasard aussi des congrégations masculines, celles qui sont jugées les plus militantes. Je pense aux bénédictins de Solesmes, par exemple, héritiers de Don Guéranger et de tout ce qu'ils représentent en tant que figure phare de l'ultramontanisme. Une partie donc des religieux sont expulsés.
Donc, c'est un semi-échec ?
C'est un semi-échec pour les républicains et ce semi-échec va d'une certaine manière se transformer en échec plus important dans les années suivantes puisque les républicains ferment les yeux assez vite sur le retour des congrégations, sur le retour des religieux partis en exil. Ils rentrent discrètement, plus ou moins tôt, dans leur couvent.
La société n'est pas encore prête, non ?
La société n'est pas encore prête et les républicains eux-mêmes sont pris dans une contradiction. Comment établir une législation d'exception contre les congrégations ? Le principe auquel est attachée la génération républicaine de 1880, c'est le principe de généralité de la loi. Il ne faut pas qu'il y ait des situations d'exception. Donc comment à la fois autoriser, ne pas autoriser, réprimer, ne pas réprimer. Donc ce qui explique que dans les années 1880, les républicains tolèrent le retour des congrégations ou plutôt cherchent à les atteindre d'une autre manière, par l'argent, par la fiscalité. Donc on va voir à partir de 1880 et jusqu'en 1896 des mesures de plus en plus exigeantes sur le plan fiscal. Je passe sur les détails de la législation de ce moment-là.
C'est-à-dire que c'est un pouvoir financier, les congrégations ?
Alors, c'est une réalité et un mythe à la fois. On va le voir en 1900 quand on va parler du milliard des congrégations. Puisque l'enquête de 1900 sur la propriété ou les immeubles ou terres détenues par les congrégations aboutit précisément à cette somme d'un milliard. En réalité, il est certain que des congrégations sont riches. Mais d'un autre côté, beaucoup de congrégations n'ont que des biens très modestes, et ces biens sont mis au service aussi de leurs activités, et notamment de l'assistance. Le budget social de l'État est inexistant. Il ne faut pas l'oublier, cela aussi.
Alors, il y a, dès 1881, un autre secteur qui est touché, c'est le secteur de l'enseignement. Voilà. Et c'était aussi là un échec. Est-ce que les lois, d'abord, quelle est la nature de ces lois votées en 1881 et quelle est leur pérennité, en quelque sorte?
Alors, bien sûr, la question scolaire, on l'a vu tout à l'heure, est décisive. Donc, ce sont les fameuses lois Ferry, l'école gratuite, laïque et obligatoire. Et plus encore, peut-être la loi Goblet de 1886 qui prépare la laïcisation du personnel des écoles publiques. Avec un délai de 5 ans pour les hommes, sans délai précis pour les femmes, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas la relève laïque prête. Donc là, c'est l'investissement majeur. L'école, puisque la loi l'impose dans toute la France, doit échapper progressivement aux congrégations.
Alors, et là, il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une obligation alors, et elle est suivie.
Alors, l'obligation est suivie notamment pour les écoles de garçons, mais aussitôt, en fait, la plupart des écoles communales, lorsque le personnel congréganiste est remplacé, voient se dresser à côté ou en face une école libre, catholique. Mmh. Pour les écoles de filles, la société est beaucoup plus hésitante. Laïciser l'enseignement des garçons, oui. Laïciser l'enseignement des filles, non. Il faut quand même leur donner une sorte de garantie morale qui est peut-être plus nécessaire. Élever les filles sur les genoux de l'Église, comme on disait autrefois. Et la réticence est beaucoup plus forte à la laïcisation des écoles de filles.
Donc là encore, enfin, un an après les lois de 1880, la société n'est toujours pas prête et il faudra attendre beaucoup plus tard pour voir une radicalisation du mouvement.
Oui, alors on ne peut pas dire qu'il y ait échec total ou succès total.
Il y a tout de même des écoles qui sont fermées.
Voilà,
il y a
incontestablement, les positions scolaires des congrégations s'effritent dans les années 1880-1890. Mais en même temps, les lois Ferry ou la loi Goblet, l'obligation, par exemple, du brevet d'enseignement imposé aux directrices d'école ou aux directeurs d'école, conduit les congrégations à améliorer leur niveau d'enseignement, à mieux préparer leurs membres à leur vocation pédagogique. Donc, lorsqu'on se retrouve en 1900, on comprend que l'État républicain, dans une nouvelle conjoncture, veuille aller plus loin. Parce que, certes, l'école catholique est moins puissante, mais elle est encore là.
Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un terreau à la création d'une école privée, au fond. Voilà. Il y a une mutation qui, à cette époque.
Voilà, la mutation commence dans ces années 1890 et s'achèvera ou s'accélérera après 1900, où là, le démantèlement des congrégations sera beaucoup plus important et on verra se mettre en place l'école catholique privée, au sens où on l'entend encore aujourd'hui.
Je reçois Christian Sorel, donc professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Savoie, et nous évoquons toutes les années précédant la loi de 1905, les années donc qui concernent les lois anti-religieuses contre les congrégations. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
On retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Christian Sorel, professeur d'histoire et auteur du livre La République contre les congrégations, histoire d'une passion française 1899-1904, un livre paru aux éditions du Cerf l'année dernière. Alors nous évoquons les congrégations religieuses et la politique républicaine contre ces congrégations religieuses. Nous avons évoqué les lois scolaires et les lois demandant l'autorisation en fait de en quelque sorte d'exister pour ces congrégations. Nous avons aussi évoqué cette mutation, qui est une mutation très intéressante, vers le privé. La religion devient quasiment une affaire privée.
C'est en tout cas le rêve et l'ambition des républicains. Privatiser le religieux, faire que la religion ne soit plus, et surtout le catholicisme en l'occurrence, ne soit plus dans la sphère publique, ne soit plus dans la sphère sociale. On le retrouve, on a évoqué l'école, mais on pourrait évoquer l'assistance, et notamment le combat dans les hôpitaux parisiens pour que des infirmières laïques remplacent les religieuses, soignantes.
Alors justement, dans ce mouvement, ce qu'il y a de très intéressant, dans cette mutation vers le privé, est-ce que les laïcs jouent un rôle majeur, mais les laïcs non pas contre les congrégations, mais les laïcs qui, eux, veulent défendre les congrégations?
Alors, jusqu'en 1899, ce sont effectivement les notables catholiques qui vont, pour l'essentiel, soutenir le passage de l'école communale à l'école privée, qui vont financer ces écoles. Le clergé, également. Dans cette perspective, l'équilibre entre les congrégations et les notables, les prêtres des paroisses, est modifié. Les congrégations qui étaient des puissances, qui se suffisaient à elles-mêmes et qui contrôlaient l'école, se retrouvent de cette manière dans une forme de dépendance à l'égard de catholiques, bien entendu, mais il faut négocier, il faut échanger des services.
Il y a une perte d'autonomie, en quelque sorte.
Il y a une perte d'autonomie, d'une certaine manière.
Est-ce que les congrégations glissent vers une dépendance des diocèses ?
Pour une part, oui, pour une part, non. Il y a les deux phénomènes, c'est-à-dire que pour l'école, au moins, il est vrai que les congrégations sont de plus en plus dépendantes de directions de l'enseignement libre qui peuvent commencer à se mettre en place dans les diocèses. Mais d'un autre côté, les plus grandes de ces congrégations passent sous le contrôle de Rome et elles aspirent de plus en plus à être sous le statut de droit romain, ce qui leur donne quand même une certaine autonomie à l'égard des évêques. Et on comprend qu'un certain nombre d'évêques, vers 1900, ne soient pas les plus fervents défenseurs de toutes les congrégations.
Il y a réellement, enfin, on ne va pas parler d'opposition, mais il y a tout de même une lutte d'influence entre les deux pouvoirs, congrégation d'une part et séculier d'autre part.
Ici et là, oui. Et on voit, bon, certains évêques comme Mgr Turinas, dont le tempérament est assez exalté à Nancy, qui est très peu tolérant à l'égard de congrégations qui ne se soumettent pas à ses ordres.
Alors, nous évoquions tout à l'heure les missions. Une des conséquences de ces lois anti-religieuses, c'est l'exil. L'exil et donc l'évangélisation à l'extérieur des frontières.
Incontestablement, après 1880, il y a eu un refuge pour l'essentiel provisoire, puisque peu à peu, on le disait, les religieux reviennent. Mais les religieux ont aussi, par crainte de la politique républicaine, de ce qui pouvait se passer à nouveau, les religieux ont maintenu quelques établissements à l'étranger. Et de cette manière, la présence missionnaire française s'est constamment renforcée à la fin du XIXe siècle.
Comment concrètement, au fond, les religieux vivent ces lois anti-religieuses? C'est-à-dire qu'une école qui se ferme, que devient la sœur qui avant enseignait les enfants?
Alors, dans la plupart des cas, elle ouvre une école libre à côté. Donc, finalement, le changement est relativement limité.
Avec obligation d'avoir un brevet?
Avec obligation, oui. Pour la directrice, au moins. Avant 1900. Bon, après 1900, ce sera l'exil ou la fermeture définitive, on en reparlera, c'est un peu différent. Mais on constate incontestablement qu'à l'intérieur des congrégations féminines, mais plus encore à l'intérieur des congrégations de frères enseignants, il y a une sorte de concurrence entre la vocation proprement religieuse et la vocation enseignante. On assiste au fond à une professionnalisation des congrégations. Et au moins pour les frères, il y a des formes de revendications professionnelles. Ne parlons pas de syndicats, ce serait excessif, mais en tout cas, c'est un petit peu dans cet esprit-là, qui montre que ces congrégations sont quand même fragilisées de l'intérieur par les effets indirects de la politique républicaine.
Alors, je vais passer à un tout autre sujet. En fait, nous évoquons ces congrégations et nous n'évoquons pas en fait le camp d'en face et ses hommes. Alors, nous connaissons assez bien, en tous les cas, j'espère que nos éditeurs le connaissent, Ferry. Il y en a un moins connu, c'est Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau a toute son importance dans ces lois des années 1880.
Alors, incontestablement, Waldeck-Rousseau va avoir une double importance.
Qui est-il d'ailleurs?
Alors, qui est-il? Une figure du parti républicain modéré construit une carrière à partir des années 1870, qui n'arrive pas au premier plan jusqu'à la fin du 19e siècle, mais qui va se retrouver précisément en première ligne à partir de 1899 dans la politique de défense républicaine. Et c'est cette politique de défense républicaine qui va poser à nouveau la question des congrégations, mais qui va la résoudre d'une manière différente.
Si on le compare au petit Percombe plus tard, est-ce qu'il est plus modéré
Alors, ça reste un peu un débat des historiens. Lui-même a essayé d'imposer cette idée qu'il était plus modéré que Combes. Il s'est opposé, il a critiqué par certains aspects la politique de Combes. Mais les deux hommes sont quand même dans une ligne proche, une volonté de contrôle, de régulation de l'institution ecclésiastique et congréganiste.
Est-ce que cette modération n'est pas au fond la conséquence de cette société qui n'est pas encore prête et que nous évoquions tout à l'heure?
Sans aucun doute. Mais d'un autre côté, il y a la pression du militantisme républicain pour qui la congrégation représente une sorte de mal absolu. La congrégation, c'est au fond la négation de tout ce que la France nouvelle, républicaine, la France des libertés représente. Puisque au cœur de la congrégation, il y a le vœu. Le vœu, c'est l'abandon de la volonté. Du moins dans la représentation qu'en ont les républicains. C'est obéir au doigt et à l'œil, hein, à cadavère, comme un cadavre, pour reprendre la formule des jésuites. Et pour les républicains, mais ce thème n'est pas nouveau, sous la Révolution c'était déjà exactement ce thème, on a là la négation même de l'individu. Et on comprend que la lutte contre les congrégations, c'est sans doute une lutte de position, d'influence, de conquête de secteurs, mais c'est aussi, peut-être plus fondamentalement, une représentation du monde, de la société, une représentation de l'homme qui est en jeu.
Alors, en face de ces républicains, en tous les cas politiquement parlant, à l'Assemblée nationale, il y a une réelle opposition et quelle est au fond la mesure de cette opposition et la capacité de cette opposition?
Alors, la capacité de cette opposition est assez limitée, puisque régulièrement, à partir de 1876-1877, les élections voient la victoire, parfois le triomphe des républicains. Et il ne faut pas oublier que le ralliement à la République, cette invitation que lance Léon XIII aux catholiques français d'accepter le régime, non pas pour en accepter les mauvaises lois, mais pour entrer, combattre, de l'intérieur, ce ralliement a profondément divisé l'opposition, a affaibli les monarchistes, qui étaient les principaux défenseurs des catholiques à l'Assemblée. Beaucoup se retirent de la vie politique active. Et donc, il y a bien sûr des combats constants dans les assemblées, mais des combats perdus d'avance, bien souvent.
Alors, il y a, sur le plan politique, une affaire qui est très importante, c'est l'affaire Dreyfus.
Bien sûr.
Quel est son lien avec la question des congrégations? Est-ce que les camps sont marqués de la même manière ou au contraire, on se doit de faire une nuance sur les anti-Dreyfusards, les Dreyfusards, les anti-congréganistes et les congréganistes?
Alors, en fait, l'affaire Dreyfus, elle a une double conséquence. C'est d'abord qu'elle rend difficile un ralliement déjà bien compromis. Et surtout, elle va conduire à recomposer clairement le jeu droite-gauche. L'opposition droite-gauche s'était un petit peu effacée au début des années 90 face à la montée du radicalisme. Il y avait une esquisse de conjonction des centres, disons, hein, le centre-gauche qui efface un peu ses positions anticléricales et les catholiques modérés. C'était d'ailleurs dans la logique de Léon XIII qui appelait à l'union des honnêtes gens contre le risque de la révolution. Or, l'affaire Dreyfus rétablit le jeu droite-gauche. Or, quel est le facteur finalement d'union de la gauche, divisée sur le plan social notamment? Les socialistes, les radicaux n'ont pas du tout les mêmes positions sociales. C'est très largement l'anticléricalisme. Alors, je ne veux pas dire par là que cet anticléricalisme est purement tactique, opportuniste, comme l'a reproché la droite. Je répète, il s'enracine dans une profonde conviction idéologique, philosophique. Mais il est incontestable que l'anticléricalisme est le fédérateur de la gauche qui croit la République, plus ou moins à juste titre, menacée par les ligues, les anti-Dreyfusards.
À vous entendre, est-ce qu'on peut dire que Léon XIII, en prenant cette politique du ralliement, n'a pas au fond tiré contre son propre camp ?
Alors, c'est une question difficile. Je ne crois pas, dans la mesure où il y avait chez Léon XIII un réalisme. Il a compris l'ancrage du régime républicain dans l'électorat français. Et l'électorat français, ce sont aussi les pratiquants, et pas seulement les libres penseurs ou les anticléricaux. On a suffisamment dénoncé ce que les prêtres appelaient la double conscience. On sort de la messe et on va voter pour les républicains. Mais c'est une réalité, et cela, Léon XIII l'avait compris. Il est vrai qu'il a provoqué une cassure dans le monde catholique qui n'a pas toujours compris son geste, et notamment les notables monarchistes. Alors certains ont donné la priorité à leur fidélité romaine, quelqu'un comme Albert de Main, et d'autres se sont un peu repliés dans leur château et leurs terres pour oublier les ordres de Léon XIII.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Christian Sorel, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Savoie et spécialiste du catholicisme français. Nous évoquons le sort des congrégations sur la période 1800, des congrégations religieuses sur la période 1880-1905. Quand on lit votre livre, Christian Sorel, on a l'impression qu'au fond, la loi de 1901 est plus importante pour les congrégations que ce qui va se passer en 1905. Je me trompe ?
Oui, puisque 1905 ne va pas concerner directement les congrégations. On pourrait dire que pour les républicains, la question est réglée par la loi de 1901, précisément. Cette loi, c'est une loi sur les associations, et nous appartenons tous à des associations,
loi
1901.
Bon. Mais c'est une préface, une préface à la séparation de l'Église et de l'État, et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes ici.
Voilà. Elle n'est pas conçue immédiatement comme une préface, mais les conditions de son application vont faire que le concordat devient impossible à gérer. Et de fait, en 1904, la lutte ouverte par la loi de 1901 aboutit quasi inévitablement à cette rupture dont nous commémorons l'anniversaire.
Alors que dit précisément cette loi et qu'oblige cette loi pour ces congrégations ?
Voilà. Alors cette loi, c'est une loi d'exception. Je crois qu'il faut bien employer le terme.
C'est le titre d'un de vos chapitres.
Tout à fait. C'est-à-dire que les républicains, comme je disais tout à l'heure, font ce qu'ils n'ont pas osé faire dans la génération précédente, distinguer les congrégations des autres associations. Les autres associations ont une large liberté pour se créer. Les congrégations, elles, doivent être strictement contrôlées. Elles doivent déposer une demande d'autorisation dans les 3 mois, du moins pour celles qui n'avaient pas d'autorisation. Un certain nombre de congrégations, notamment féminines, avaient déjà des autorisations obtenues des différents régimes jusqu'au début du Second Empire. Il n'y a plus d'autorisation ensuite. Mais désormais, toutes les congrégations doivent se soumettre ou partir. Elles ont 3 mois pour le faire. Le 1er octobre 1901, elles doivent avoir décidé.
Dès lors, est-ce que la société est préparée à une telle chose plus que 20 ans auparavant ?
Sans aucun doute, pour une part, mais pour une part seulement, la conjoncture politique est décisive. L'affaire Dreyfus, on l'a vu, a rétabli le combat droite-gauche.
En 1898.
Et le parti favorable à l'alliance des radicaux et des socialistes, qui va gagner les élections de 1902, est assez puissant. Cette loi des congrégations, contre les congrégations, et son application plus encore, ça n'est pas seulement une volonté de l'État. Il y a toute une France, la France des francs-maçons, des libres-penseurs, des sociétés de pensée, de la Ligue de l'enseignement, des sociétés politiques. C'est toute cette France qui porte le combat contre les congrégations. On est bien au cœur de la lutte des deux Frances.
Alors chronologiquement, donc vous dites les associations, enfin les congrégations ont 3 mois. Nous sommes en fin d'année 1901. Donc la lutte antireligieuse s'opère au fond l'année suivante, en 1902. C'est l'apogée d'une lutte anticléricale.
On commence véritablement en 1902, l'apogée c'est 1903-1904. C'est-à-dire que les congrégations en 1901 ont dû choisir, globalement, la plupart demandent une autorisation. Elles ne sont pas très rassurées, elles ne savent pas ce qui va se passer, mais la plupart demandent une autorisation, même si un certain nombre s'exile immédiatement à l'automne 1901. Les élections de mai-juin 1902 sont gagnées par ce qu'on appelle le bloc des gauches, et Waldeck-Rousseau s'efface au profit d'Émile Combes. Et Émile Combes, dès l'été 1902, lance l'offensive anticongréganiste, qui est d'abord une offensive antiscolaire, c'est-à-dire qu'il va fermer un certain nombre d'écoles, 2500 dans l'été 1902. Les congrégations parfois résistent, on envoie la troupe, la gendarmerie, pour expulser ces pauvres religieuses, bien souvent, parfois utilisées à des fins politiques, incontestablement, et la procédure va se poursuivre dans les mois qui suivent.
On retrouve le rôle des femmes, les femmes, dites-vous, qui sont beaucoup plus pieuses que les hommes, et dans leurs actions, bon, il n'y a pas 36 moyens de s'opposer aux gendarmes. Il y a soit les pétitions politiques, soit le fait d'être présent et puis d'empêcher l'avenue ou la mise sous scellé des oui. bâtiments. Donc les femmes jouent vraiment un rôle important.
Tout à fait, parce qu'au fond, ces écoles fermées dans l'été 1902 ne sont que des écoles de filles et elles sont d'anciennes élèves, bien souvent, de ces écoles. Elles ont leurs enfants dans ces écoles. Il y a donc aussi une forme, je dirais peut-être, de complicité féminine avec les religieuses. Et incontestablement, on voit dans l'été 1902 des résistances plus importantes, évidemment, dans les régions de chrétienté. Le sommet, c'est dans le Finistère. Mais on les voit un petit peu partout en France, au point d'ailleurs que des républicains, des Dreyfusards sont choqués par cette violence d'État que représente la politique de Combes.
Alors que deviennent les religieux ? Vous avez une expression que j'aime beaucoup, c'est la spiritualité victimale. Comment est vécue cette action républicaine ?
Comme une persécution. Incontestablement, pour les religieux, pour les religieuses, c'est 1793 ou 94 recommencé. C'est la révolution qui recommence. Il faut accepter la persécution. Il faut se sacrifier. Le sacrifice n'ira peut-être pas jusqu'au sacrifice de la vie, même si quelqu'un...
Il n'y a pas de mort.
Il y a eu quelques morts dans les manifestations, pas parmi les religieux, hein, mais dans les foules qui manifestent. Mais c'est vrai que c'est très peu. Il y a un ou deux morts en 1900, dans l'été 1903. Moins d'ailleurs à l'occasion de l'expulsion des congrégations que dans ce que j'appellerais la guerre des processions, hein, lorsque les municipalités vont interdire les processions de la fête Dieu, notamment sur la place publique.
Vous avez, il y a une citation que je vais reprendre, page 156 de votre livre. Un supérieur dit à un religieux: quittez cet habit que vous avez revêtu dans la joie et l'élan de votre jeunesse. Vous pleurerez en vous séparant de lui, mais il n'y a pas de loi qui vous empêche de vous séculariser sur place. Quelle est la place justement de cette sécularisation? Est-elle importante? Et au fond, les religieux arrivent-ils à faire en laïque ce qu'ils faisaient en religieux?
Alors là, c'est incontestablement l'un des enjeux majeurs en 1903-1904, lorsque vont être interdits définitivement l'enseignement, hein, puisque la loi de juillet 1904 interdit tout enseignement, fût-il libre, aux congrégations. Que devenir? Que faire? Rester en France? Partir? Et on voit là que les congrégations avaient pu être aussi des instruments pour les diocèses, les curés, les notables, parce qu'ils tiennent d'abord à l'école avant de tenir à la congrégation. D'où cette phrase que vous citez. Quittez l'habit, vivez en religieux dans le monde, soyez d'abord des instituteurs ou des institutrices. Et là, il y a un danger réel de disparition, de dissolution, d'une certaine manière, des congrégations. Rome a réagi, a appelé à une certaine prudence en rappelant que la vie religieuse a une valeur en soi, une valeur propre, mais en même temps, d'autres congrégations ont choisi de préserver cette vie religieuse dans l'exil. Donc on entre à ce moment-là, entre 1902 et 1904, dans ce grand exil, peut-être 30 000, 60 000, disent d'autres témoignages, religieux quittent la France.
Alors peut-être une dernière question, Christian Sorel, nous arrivons au terme de l'émission. Vous écrivez que la réconciliation s'opérera lors de la Première Guerre mondiale.
Pour une part, oui, puisque...
Le retour au pays, en tout cas.
Voilà. Une grande partie des religieux exilés rentrent, les hommes, mais aussi les femmes comme infirmières, les hommes comme combattants, les femmes comme infirmières, une grande partie vont rentrer en France. Et on imagine difficilement, après 1918, de leur demander de repartir. Et en tout cas, eux-mêmes ne le voudront pas. Le problème des congrégations ne sera pas réglé. Il traverse encore quasiment tout le XXe siècle. Mais malgré tout, il n'est plus aussi évident. Le XXe siècle est dominé par la question de l'école catholique, de l'école libre, et bientôt des questions de subventions aux écoles qui vont marquer un glissement, justement, de la question congréganiste à la question scolaire.
Eh bien, je pense que ces débats feront l'objet de bien d'autres émissions sur Canal Académie. Christian Sorel, je vous remercie beaucoup pour cette passionnante émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « La République contre les congrégations, histoire d'une passion française, 1899-1904 », paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup et
merci
à bientôt.
De votre accueil.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.